Vous écoutez Radio Campus Lille, il est 18h.
Le DAB+, c'est la radio qui fait sa révolution numérique avec une qualité optimale et des services nouveaux. Passez au DAB+ et appréciez les avantages de la radio numérique gratuite car sans abonnement. Alors n'attendez plus, un poste DAB+, en voilà une belle idée de cadeau. J'aime ma radio en FM, je vais adorer l'écouter en DAB+.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Campus, on est ravis d'être avec vous pour un nouvel épisode de Heureusement en France. Il est 18h01 et nous allons passer ensemble une petite heure comme tous les dimanches en compagnie de moi-même François, de Reynald.
Bonjour à tous.
Et de Dominique.
Allez.
Aujourd'hui on a plein de news geek d'actualité et on a profité pour faire un petit test de réalité virtuelle. Vous connaissez l'émission, il y aura aussi de la musique. On vous a préparé un bon album hommage, voilà. Et voilà, on fera un peu le tour de tout ça ensemble. Et nous avons eu l'occasion de tester un peu la technologie de réalité virtuelle ensemble.
Alors, ça fait un peu ringard, c'est le truc qui existe depuis 20 ans, tu vois.
C'est ça, voilà, on vient enfin de tester la chose. Alors, il y a plusieurs casques de réalité virtuelle et effectivement, nous on a testé cette fois-ci.
Vas-y. Et puis je me rappelle qu'il y a je dis 20 ans, mais il y a 30 ans que ça existe pratiquement. Parce qu'il y a, il y a 25-30 ans, je me rappelle qu'il y avait, les cartes.
La Virtual Boy.
La Virtual Boy, oui, c'est ça. Mais même sur ordinateur, tu avais, avec certaines cartes, quand les premières cartes 3D sont apparues, les fameuses Voodoo, qui coûtaient une fortune à l'époque. Il fallait même des fois en mettre deux pour avoir une puissance à un jeu en 3D. Et tu avais des casques de réalité virtuelle, façon de parler, des casques 3D, on appelait ça les casques 3D à l'époque. C'est comme les 4x4, maintenant on appelle ça des SUV, les casques 3D, maintenant on appelle ça des casques VR. Et voilà, avec deux encoches qui alternaient, qui se fermaient alternativement très rapidement devant tes yeux pour simuler de la réalité virtuelle sur des ordinateurs de PC et de jeux, quoi.
Et ça te permettait de regarder Canal+ à certaines heures aussi
possiblement.
Ça te coûtait quand même plus cher qu'une passoire. Hein.
Alors, on ne va pas ici citer tous les casques et vous recommander, mais bon, dans les plus gros, nous avons Valve et Oculus qui se partagent une grosse partie du marché. Et c'est vrai que les débuts de la VR ont été assez pénibles pour certains, puisqu'il y avait un rendu qui pouvait rendre un peu. Ouais. Qui pouvait vous donner la nausée, voilà.
Et il y avait surtout. La qualité des écrans et de la technologie, tout simplement, n'était pas encore au point pour afficher suffisamment rapidement. Ça a évolué au fur et à mesure, même chose que la technologie des écrans 2D, je veux dire, enfin LED et plasma et compagnie.
Effectivement.
C'est logique.
Et il y a aussi la notion de capteur, puisque l'important de la réalité virtuelle, c'est que, alors pour ceux qui éventuellement ne connaissent pas, c'est de mettre un casque, d'avoir deux manettes, et lorsque vous regardez dans le casque, vous pouvez voir les manettes qui représentent des mains virtualisées. Donc vous avez vraiment l'impression d'être dans un jeu. Vous pouvez vous baisser, vous pouvez vous bouger sur les côtés, monter les mains.
En fait, c'est le principe que tu mets le casque et le casque détecte les mouvements de ta tête. Donc quand tu tournes la tête, comme j'essaye de pas le faire devant mon micro pour qu'on m'entende toujours, et ben tout simplement l'image que tu vois dans tes yeux, j'allais dire. Mais tourne quand tu regardes la chose, ça tourne. Enfin, c'est un truc un peu basique. Alors est-ce qu'on pourrait parler, oui, quand on parle de la Kinect, enfin de tous les accessoires qui étaient vendus avec les consoles Xbox ou PS4, etc., et que tu mets au-dessus ou en dessous de ta télé et qui permettent de détecter les mouvements, qui permettent de jouer à des jeux comme Dance Revolution ou à des jeux comme ça où tu fais, au lieu de bouger une manette, d'utiliser une manette ou un joystick, tu bouges devant l'écran, tu bouges la main et la console détecte que tu bouges la main et donc ça réagit dans le jeu. C'est pas vraiment de la réalité virtuelle, mais enfin c'est quelque chose, c'est compatible, quoi. C'est, tu détectes les mouvements, t'as plus besoin d'un accessoire dans les yeux, et que là tu mets un casque et en plus tu vois en 3D, c'est de l'immersion, quoi.
Surtout que t'as le son qui vient avec, oui. Le casque te bloque la vue parce qu'il il te donne des images avec lesquelles tu vas jouer ou interagir, mais aussi le casque te couvre les oreilles et te donne le son du jeu ou de l'animation que tu trouves.
Vraiment,
et donc tu es vraiment à 100% à l'intérieur et ton corps ne peut que réagir à ça.
Même si tu sais, bon, parce que ce qu'on a testé, c'est un modèle très récent, mais la puissance n'est pas encore suffisante pour avoir des images de qualité réelle. Quoi.
Voilà, alors justement, j'allais te dire... Des capteurs, c'est vrai que sur les dernières versions d'il y a 2-3 ans, vous deviez avoir des grands pylônes qui permettaient plus ou moins de capter où était le casque. C'est et ça. Comme ça, il y avait un rendu derrière.
Il fallait aller dans des salles, dans un endroit spécial, dans des salles qui peuplent un peu, qui commencent à pulluler un petit peu dans les villes. C'est ce qui est en train de remplacer les escape games, j'ai déjà l'impression. Et où ça coûte cher, parce que le matériel coûte cher, il faut des capteurs, il faut que tu sois isolé, il faut vraiment de la bonne qualité, une bonne puissance. Et maintenant, c'est pratiquement disponible à domicile, quoi.
En
qualité suffisante. Ça fait longtemps qu'il y a des casques, que tu peux acheter des casques pour chez toi, mais ça coûtait une fortune et la qualité visuelle d'immersion n'était pas encore au point. Là, vraiment, ça commence à aller. Quoi.
Avec une meilleure ergonomie aussi. Puisque
et puis des casques légers surtout.
Là, dans les dernières versions qui arrivent, alors qui ne révolutionnent pas au niveau graphisme, au niveau des capteurs, mais qui vous permettent de jouer juste avec un casque, deux manettes et un smartphone. Et là, c'est ce qu'on a testé ensemble. On a testé l'Oculus Quest. Donc, il y a la version Rift qui permet d'avoir un PC connecté. Le PC, lui, va plus ou moins calculer le jeu à votre place.
Bah, Oculus a connu un bon boost quand Facebook s'est dit il y a du fric à faire. Combien elle vaut votre petite boîte? Vous voulez acheter un casque? Non, on va vous acheter vous. Ok. Du coup, Facebook a acheté Oculus et maintenant, c'est Facebook Oculus.
Voilà, et ils mettent l'argent, ils sortent des nouvelles solutions. Donc là, vous avez plus trois types d'Oculus différents pour jouer de trois manières différentes au même jeu de la même façon. Mais voilà, il y en a un qui utilisera un PC, l'autre un smartphone, etc. Donc là, l'Oculus Quest, comment ça marche? Vous installez sur votre Android ou votre Mac, ou peu importe.
Il faut un appareil externe.
Vous installez cette application Oculus qui va vous charger une bibliothèque de jeux. Avec quelques-uns gratuits.
Ah, bien sûr.
Et ensuite, vous allez dire, installer, ça va être...
Ah oui, d'accord. Et communique avec le casque. Et
effectivement. En Wi-Fi, donc, l'installation va se faire sur votre casque et vous pouvez ensuite jouer sans ordinateur, comme ça, n'importe où, du moment que vous redéfinissiez la zone.
N'importe où, attention. N'importe où, attention, parce que il y a certains jeux où t'as pas besoin de bouger, mais il y a des jeux où tu dois marcher un petit peu. Donc la première chose à faire quand tu lances un jeu, si j'ai bien compris, c'est délimiter l'espace. Donc si t'es dans ton petit appartement et qu'il y a des meubles, etc., que tu peux pas bouger, tu dois d'abord avec l'ordinateur dire et montrer, je sais pas comment ça marche, avec le point, tu montres simplement, tu délimites l'emplacement au sol où tu vas pouvoir te bouger. Et le jeu en tiendra compte, c'est ça qui est
effectivement, puisque des quatre côtés du casque, vous avez des petites caméras de très basse qualité, mais qui permettent juste à l'intelligence artificielle de calculer selon les mouvements, quel mouvement vous êtes en train de faire. Donc il n'y a pas de capteur extérieur, c'est interne, c'est assez bien fait. Qu'est-ce que vous en avez pensé du premier jeu? On a testé un super jeu qui est Super Hot.
Super Hot, c'est un jeu que moi j'avais découvert qui était sur Steam. Enfin, c'est vraiment un petit jeu indépendant qui était un jeu. Enfin, comment expliquer le principe? C'est ce qu'on appelle un FPS, c'est-à-dire que tu contrôles un personnage qui se déplace. Il y a des ennemis qui sont en rouge. En plus, les graphismes sont très simples.
Très
il y a du gris pour le décor, du blanc pour les décors, les meubles, objets, etc., les objets. Du noir pour les objets, pour les armes et les objets que tu peux attraper. Et du rouge pour les ennemis, en gros. Et le principe de Super Hot, c'est que quand tu ne fais rien, que tu ne bouges pas la souris de ton ordinateur, les ennemis ne bougent pas. Par contre, dès que tu fais un mouvement, que tu tournes la caméra, que tu tournes pour regarder autour de toi, là, les ennemis commencent à bouger et à venir vers toi pour t'attaquer. Et donc, c'est là que tu dois bien...
tu dois rester immobile pour que le temps s'arrête.
Le temps s'arrête pour
que tu puisses... regarder ce qu'il y a autour de toi et te dire, ok, lui il a un flingue donc il va me tirer dessus, donc il faudra que je me baisse, mais si je me baisse, lui là-bas il va avancer. Enfin, tu prépares ta stratégie à ce moment-là et après tu agis.
C'est un petit peu comme si c'était au ralenti et tu peux ramasser une arme, la lancer ou attraper une bouteille et la lancer ou frapper un ennemi qui s'approche avec. C'est très intuitif, c'est très addictif surtout. Et Super Hot allait plus loin parce que le scénario, l'histoire était très bien conçue. Essayez-le à l'occasion, Super Hot. Et je savais que quand je voyais le truc, je me disais, ça va être adapté en 3D à la VR, ça va être parfaitement adapté. Et il y a eu très très vite, je pense un an ou deux après la release du jeu, c'est la musique, il y a eu une version VR qui est sortie, parce qu'il y avait déjà des plateformes, des ordinateurs où tu pouvais jouer en réalité virtuelle. avec ouais, tout les, le matériel de l'époque, et c'est parfaitement adapté. Alors moi qui ai beaucoup joué à la version, on va dire 2D, enfin classique, sur un écran classique, j'ai eu un petit peu de mal à prendre mes repères, surtout parce que la précision, même si j'avoue que c'est assez bluffant, le fait que quand tu tournes l'écran, tu peux regarder autour de toi, tu vois l'ennemi, c'est la précision un petit peu différente de la version 2D, mais j'ai retrouvé quelques sensations, mais il y a des sensations que je n'ai pas retrouvées quand même.
D'accord, mais il y avait quand même une certaine immersion qui était assez puissante.
Oui. Puis ce qui est pas mal, c'est que dans le jeu vidéo, tu bah, as juste à viser avec ta souris, tu cliques et, et tu vois par exemple ton shuriken ou ta balle qui part, et
tu ramasses un arme, etc.
Alors que là, tu dois faire le geste pour lancer un shuriken et... généralement, comme tu as le bras tordu comme moi, tu vises le torse et tu vois que le shuriken va se planter dans le plafond. Tu fais ah oui, même ma façon de lancer, enfin d'avancer mon bras influe sur l'orientation de l'arme qui va
puis tirer. Tu dois bouger, dois marcher, etc. Tu peux t'approcher des ennemis, t'en profites un petit. Moi, je me suis amusé, essayer de faire, enfin expérimenter un petit peu, j'avoue. À un moment, tu peux et pour attraper une arme, un pistolet, tu dois vraiment l'attraper là, et donc tu approches, tu fermes ta main dessus et ça la ramasse naturellement. Mmh. Et j'avoue que là, c'est et même à un moment, il y avait une arme qui volait au-dessus de moi, qui allait partir derrière moi, sans me retourner, j'ai simplement tendu le bras en arrière, je l'ai attrapé et j'ai pu l'attraper. J'avoue que là, il y a eu des tests, ça fait un moment que c'est sorti, donc, mais j'avoue que là, entre la précision des capteurs, la réactivité et puis bah, l'intelligence artificielle qui arrive à gérer tous les, à anticiper tous tes mouvements, ça rend bien.
En plus, ça reste instinctif, comme tu dis, quand tu vois l'arme qui passe au-dessus de toi et que tu as envie de l'attraper. Bon, aussi, on est un peu conditionné avec tous les films d'action qu'on a pu voir depuis notre jeunesse, mais... tout de suite, tu dis, bah, j'ai une arme, je peux m'utiliser. Et hop, tu tends le bras, tu dis, bah, voilà, c'est notre réflexe de jeu vidéo, c'est bah, je vais essayer de l'attraper, et si je peux l'attraper, je l'utilise. Mm-hmm. Et c'est vraiment bien fait.
Mais tu essayes quand même de... Enfin, tu sais qu'il y a des trucs qu'il ne faut pas faire. Tu évites de sauter, parce qu'on était dans les studios dans le campus, donc il y a des chaises, faut faire attention quand même. Il y avait des gens autour de nous, et tu captes, tu t'habitues, et tu fais quand même attention à ce que tu fais. Je savais, ce qui était un petit peu décent, c'est que dans le jeu, tu peux pas donner de coup de pied, mais peut-être bien un jour... Là, on a des appareils, mais peut-être qu'un jour, on aura aussi des capteurs sur les pieds.
Bien sûr.
On pourra aussi frapper, ou alors il y aura des capteurs extérieurs, tu auras même plus besoin de. Tu auras juste le casque à mettre, voire des lunettes, enfin, il y aura très vite juste des lunettes, et puis tu seras vraiment immersé dans les jeux.
Un gros point fort, c'est que graphiquement, il est assez simple, donc extrêmement bien géré par
tous les jeux Reality Virtual que j'ai vu, que enfin, je ne les ai pas forcément testés, mais j'ai vu des images, on en est encore à des graphismes assez limités, parce qu'il faut que la. Plus que la qualité graphique, il faut que la fluidité des images et la rapidité de réaction soient proches de la réalité. Faut pas qu'il y ait de lag, faut pas qu'il y ait de ralentissement ou qu'il y ait de flou. Enfin, donc pour l'instant, on est obligé d'avoir des images, des textures de basse qualité. Enfin, de basse qualité.
Alors, vu qu'on parle de Super Hot, il y a un point qui est assez notable, et notamment sur ce jeu, c'est que comme les capteurs sont sur les côtés sur quatre caméras, lorsque votre main vient exactement au milieu de votre visage, Il est plus détecté. Donc là, vous avez quelques sensations.
Il y a des petits bugs. Tu peux t'amuser quand tu connais bien le matériel à anticiper, à hacker d'une certaine façon. Tu peux peut-être tricher dans les jeux. Parce que le jeu lui-même, l'expérience est la même chose, mais ça reste un jeu quand même. Donc tu as un score. Et je ne sais pas s'il y a une version multiplayer, etc. Mais il y a des scores où tu peux. J'imagine que comme c'est lié à ton compte, tu dois pouvoir aussi garder tes statistiques, etc. Puis t'entraîner.
Pas encore de version multiplayer, effectivement. On a testé aussi, alors ça c'est un autre type de gameplay, c'est les types roller coaster, donc vous êtes dans des montagnes russes.
Il y en a plein en plus, ouais. C'est ça.
Alors un conseil, ne pas le faire bourré et le faire assis.
Et là c'est vraiment déstabilisant, pour ceux qui n'en ont jamais fait, c'est vraiment quelque chose à faire, de mettre le casque et de vous rendre compte que votre corps ne bouge pas, mais que les signaux que vous envoient votre cerveau vous disent « mais si tu es en train de bouger », là ça donne un malaise extrêmement important.
C'est pas évident à définir, quoi. On se dit, oui, je voulais essayer assis, mais bon en fait non, t'as tendance à vouloir te baisser ou etc ou à marcher un petit peu, donc c'est bon, faut le faire debout. Mais là c'est un jeu où on fait une espèce de Jurassic Park, quoi. On se promenait, puis il y a des dinosaures sur le côté, c'est des textures très basiques, on est dans la nature et on est sur un chariot qui avance tout seul, donc tu n'as pas avancé, tu n'as pas marché, mais ce qui surprend tout de suite, c'est vraiment la sensation de mouvement alors que tu es immobile dans la pièce.
Ton corps il est immobile, mais par contre tout ton cerveau lui dit, exactement. Mais au fait, tu bouges. Et là, tu bouges, mais t'es en train de monter. Là, tu bouges, t'es en train de descendre. Tu bouges, en fait, t'es en train de tourner.
Soit il te dit, alors tu bouges, immobile, soit il te dit, ton cerveau te dit, tu bouges. Et donc, t'as ton oreille interne, qui, ton système d'équilibre, qui te dit, non. Et puis, en fait, c'est ton cerveau qui se bat avec ton système d'équilibrage pour lutter, pour dire, il faut une espèce de bras de fer. Il n'y en a aucun des deux qui run. C'est ça qui est amusant.
Ouais, ou tout simplement, tu descends très rapidement. Donc, ton corps a la sensation de descente et il a envie de se. Se baisser pour amortir le choc.
C'est que moi, j'ai testé, j'ai fermé les yeux. Je me dis, je vais pas me laisser influencer par les images. J'avais que le son. Enfin, le son, c'est juste, on entend le chariot, puis un ou deux bruits de dinosaures, etc. Je me laissais bercer par le. Et j'avais quand même la sensation de mouvement. Mmh. Mais je pense que c'est mon système d'équilibre qui dit, il était encore plus perdu là.
Ouais, t'étais encore avec le son, t'étais encore dedans. T'avais pas repris tes repères du monde réel. Avec le côté fixe du sol. Quoi.
Donc, bon, je regardais le paysage, il y a des dinosaures qui me marchaient dessus, des rochers qui me roulaient dessus. Rien à faire. Et c'est assez... mais après, oui, là, ce sont des jeux, ce sont plus des expériences, on va dire des démos techniques, etc.
Et des démos sur le catalogue. Hein.
Exactement, exactement. Mais c'est tout à fait le genre d'application hors les jeux qui permettent de. Je sais pas, moi je pensais à visiter un musée ou même visiter. Est-ce qu'on aura encore besoin de voyager dans les villes ?
C'est la deuxième partie que je voulais plus ou moins annoncer. C'est après vous avez la possibilité de regarder des vidéos. Ouais. Alors il y a deux types, il y a deux façons de regarder des vidéos. La première, c'est un simulateur de plus ou moins de soit de cinéma ou d'un salon. Mm-hmm. Donc ça simule un salon.
C'est-à-dire que tu es chez toi.
Et il y a une petite télé.
Tu es chez toi. Tu dans mets ton casque salon. Et dans le jeu, tu te retrouves
chez quelqu'un d'autre,
assis sur le sol, oui. Sur un fond.
Mais c'est rangé.
Ah, c'est rangé.
C'est souvent propre. Et il n'y a peut-être pas certains éléments où ça a l'air plus grand que ça ne l'est chez toi. Mmh. Tu vois, t'as plusieurs choix.
Tu peux choisir, oui, dans le palais de la reine d'Angleterre, la Maison Blanche. Ah, c'est comme si tu visites comme si tu étais chez toi.
Alors là, non, tu ne visites pas. Là c'est des applications qui permettent de regarder la télé. Donc, t'as un petit écran.
T'imagines si t'es terroriste, tu t'entraînes comme ça, tu connais les plans par cœur de la Maison Blanche et le jour où tu feras une attaque.
Rien ne t'empêche de la modéliser toi-même et d'en faire un jeu. Hein.
Ouais, puis t'as aussi la réalité virtuelle où tu te balades dans les monuments. C'était conçu à l'époque pour toutes les personnes en situation de handicap qui ne pouvaient pas se rendre dans les monuments, qu'ils soient étrangers ou français. Et là, tu avais vraiment tu te levais les yeux, tu voyais les fresques, tu regardais à droite, à gauche, tu voyais les tapisseries, les murs, et ça permettait aux personnes de se déplacer. Parce qu'avec la manette, tu cliques à un endroit, tu te projettes à ce niveau-là de la salle, tu peux relever les yeux, revoir les nouveautés. C'était vraiment fait vraiment bien.
Sur certains musées, tu peux visiter, enfin en 3D, tu as des espèces de photos sur lesquelles qui sont prises à 360 degrés. Tu es dans une salle de musée et tu peux tourner avec ta caméra, enfin avec ta souris, tu peux tourner l'image et agrandir pour zoomer sur des détails comme si tu étais dans le musée. Mais là, tu c'est encore plus immersif, quoi. À la limite, tu oublies peut-être le bord de l'ordinateur pour profiter encore plus des œuvres.
Voilà, donc tu auras prochainement des films carrément filmés en 3D comme en ça, sur lesquels tu pourras...
C'est pas en 3D, c'est en réalité virtuelle, ça va encore plus loin.
Et là, vu qu'on parlait de l'Oculus Quest, il y a quand même deux petites avancées qui seront disponibles, puisque là pour l'instant vous pushez les applications depuis votre smartphone. Mmh. Là il y aura bientôt la possibilité, il y a déjà, c'est une bêta, de le connecter à un PC. Donc d'utiliser les fonctionnalités du Rift, ce qui est assez intéressant.
Parce que, oui, là, les jeux qui tournent, enfin, qui sont en machine, c'est une espèce de console portable, quoi. Mais c'est-à-dire que c'est une console, enfin, le casque, je ne sais pas combien il pèse, quoi. Il est assez léger, mais j'imagine qu'au bout d'une demi-heure, tu dois commencer à sentir un petit peu ton cou qui.
Ouais, puis tu commences à avoir des traces autour des yeux.
Oui, c'est ça. Donc c'est pas encore. Ça dépend des morphologies. Mais je veux dire que ça reste une console, donc elle est limitée par sa puissance. Son autonomie, ça, c'est autre chose, et la qualité de ses écrans. Mais l'idéal, c'est effectivement, si tu as chez toi une console de dernière génération ou un PC, etc., de les brancher et que les images viennent directement d'une source plus puissante, quoi, pour avoir des images de très très bonne qualité.
Effectivement, et la deuxième amélioration sera du hand tracking.
Oula.
Donc, on a bien quatre petites caméras sur les bords. Donc, si vous mettez vos mains devant vous, il sera capable d'analyser vos doigts et vous serez, par exemple, capable de taper sur un clavier.
Jouer au piano, peut-être.
Jouer au piano, effectivement. Peut-être faire de la batterie, ça sera un peu réduit sur le champ de vision. Mais voilà, ça n'empêche pas certaines avancées à ce niveau-là qui risquent d'être intéressantes.
Ça te fera évoluer les jeux, quand même, ça sera pas mal.
Alors, ça fera évoluer les jeux, mais dans la majorité des jeux, généralement, tes mains, elles partent dessus, en dessous, sur les côtés, ce qui n'est plus visible de la caméra. Donc c'est pour ça que le port des manettes est toujours important.
Là, on parle bien d'un casque, et c'est les capteurs sur les casques qui détectent tes mains et qui indiquent la position au jeu ou à l'application et qui calculent la position de tes mains. Il y a aussi, pour l'instant c'est peut-être pas encore au point, des solutions où tu as des capteurs sur les mains ou des gants, et c'est eux qui transmettent les positions et la position de chaque doigt indépendamment.
C'était quoi, c'était le Power Glove, un truc comme ça, il y a très longtemps.
C'était vraiment... c'est vraiment...
donc là... Non, mais c'est une relique maintenant pour les geeks. Hein,
la qualité des capteurs n'est pas... C'est pas encore ça. Où il y a des solutions maintenant, mais ça coûte super cher. Ou alors, il faut des capteurs externes, mais bon, là, c'est pareil, il faut une installation complète et c'est pas encore au point. Alors, en fait, l'idéal, ça serait de cumuler le casque avec ce dont je parlais tout à l'heure, les fameuses les bornes Kinect que tu branches, qui détectent les mouvements de tout ton corps, ta position, etc. Et en plus, tu vois, tu as le casque qui t'affiche vraiment tel que tu es.
C'est un peu comme les costumes des personnes qui font les images 3D pour les films d'animation. Où tu es dans une combinaison avec des... Bon, là-bas, c'est des boules sur toutes tes articulations pour que les acteurs puissent faire les animations qu'après, ils vont refaire sur PC. Donc là, pour une réalité virtuelle, ce serait pas mal parce que vraiment, tu aurais une animation beaucoup plus fluide.
Alors là, c'est parce qu'on parle de l'Oculus, hein, mais l'Oculus Store a déjà plus ou moins généré 100 millions de dollars rien que sur les achats sur leur plateforme.
Faut dire que le casque qu'on a pu tester, qu'on nous a gentiment prêté, ils sont à peu près entre 400 et 450 euros, oui, selon le modèle, etc. Ensuite, tu as effectivement, il faut acheter les petits jeux, mais c'est comme sur un market Android ou iPhone. Il y en a quelques-uns qui sont gratuits, mais il y aura peut-être des jeux. Après, est-ce que les gros studios qui sortent les gros jeux, Red Dead Redemption ou le futur Cyberpunk 2077, imaginez sortir ces jeux-là. Ça serait possible de les sortir compatibles avec des casques, c'est peut-être prévu. Mais par contre, là, je ne te raconte pas la machine de compétition qu'il faut avoir, parce que déjà, pour afficher le jeu en 2D, je veux dire, sur un écran PC basique, faut une machine en résolution et en vitesse, en cadence suffisante, il faut avoir une machine très récente. Alors là, pour l'acheter en 3D, en réalité virtuelle, ça sera encore pire.
Ouais, ça, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment se pencher là-dessus. Et c'est pas pour rien que la majorité des jeux, ça a toujours un petit effet cartoon. On a très rarement des jeux
qui essaient de pousser. C'est vraiment la fluidité qui compte avant tout. Et puis les jeux ou les applications. Alors moi, je n'ai jamais été fan. Je trouve que la VR... comme pour la 3D pour les films, c'est vraiment de la poudre aux yeux, de la poudre virtuelle aux yeux. Je trouve que si ton jeu ou ton film ou ta série, peu importe, n'a pas des qualités de base en 2D, en mode normal, le fait d'en rajouter de la 3D comme argument, etc., c'est que tu ne crois pas forcément ton produit de base, peut-être. C'est comme si tu fais de la cuisine, que tu as un super plat qui est bon et tout, si tu es obligé de rajouter des tas d'épices et des tas de décorations et de les faire, je me dis, il y a un truc louche, quoi. C'est que
Pas très d'accord, parce que pour l'avoir testé plusieurs reprises, tu es vraiment dans diverses façons de le tester, on va dire pas qu'une fois sur une seule et unique jeu, tu as des sensations différentes.
À condition que ça soit pratiquement prévu et pensé pour dès le départ.
Pas forcément, parce que tu as des... Là, on parle de la réalité virtuelle où on est seul avec son casque et on joue, on essaye de faire le meilleur score ou d'arriver à la fin du jeu, mais tu as la réalité virtuelle où tu peux jouer à plusieurs et... C'est le même jeu, c'est une sorte de LAN party, mais on est tous dans le jeu, dans le même jeu. Et là, tu es vraiment immergé dans le jeu, parce que les autres joueurs, tu les vois, bon, c'est un avatar numérique, normal, mais on peut interagir, parce qu'on va parler, et tu entends les autres joueurs qui te disent des choses. Donc, tu as conscience des autres personnes avec toi, mais tu dis, mais je suis acteur de mon jeu. C'est vraiment des sensations, faut l'avoir essayé.
Moi, je différencie vraiment le fait, quand t'es en solo, que ça soit pour visiter un musée, regarder un film, même si t'es à côté d'autres personnes, t'es extérieur au truc. Pour moi, ça fait vraiment gadget, donc on prend. Ouais.
Là, je suis d'accord avec toi, pour l'avoir l'essayer en solo, c'est un peu comme si tu dirais, moi je suis pro console, pro ordi, pro VR, ça s'arrêtera là. Par contre, je vous encourage à essayer la version multijoueur de la VR. C'est vraiment autre chose.
Bah justement, je crois que toi, tu as testé justement...
Ouais, j'ai testé deux petites choses. Le Planet Bowling à l'homme, où là, c'est vraiment ce que j'expliquais. le mode multijoueur où on a, chaque joueur a un PC sur le dos et une arme à la main, plus le casque. Ah oui, non, mais parce que en fait, il y a des capteurs au plafond qui analysent, je vais pas dire à chaque type, mais qui analysent où se trouvent les joueurs pour après que dans les casques, ils puissent te dire, ben tu vois un avatar numérique là-bas, c'est parce que les PC entre eux sont connectés. Ouais, et puis, voilà. Et le,
on ne parle pas d'unité centrale.
Non, c'est un PC portable qui est mis en sac à dos, que toi tu portes en sac à dos. Au début, tu fais ça va être lourd à gérer ça, puis au bout de 5 minutes, tu l'as complètement oublié. Hein. T'es dans ton
c'est
jeu.
Le lendemain, quand tu te lèves, tu dis oh, j'ai un petit peu mal quand même.
Ah non, mais là, enfin,
ça
ne
dure pas très longtemps non plus. Donc
voilà. Là, par contre, pour le petite info, c'est on ne fait pas gaffe sur le coup, mais il y a par exemple une arme qui avait un petit effet de secousse, l'effet mitraillette. On n'y fait pas gaffe, mais je l'avais mal calé sur mon bras, ce qui fait que le lendemain matin j'ai eu un petit hématome. Je me suis dit, mais je me suis pas fait frapper pourtant. C'est pas bon. Mais bon, ça c'est une petite anecdote.
Donc ça c'est le genre de jeu où c'est comme un FPS où les trucs qu'on peut.
Ah oui,
c'est le paintball, mais qui fait moins mal.
Le paintball ou le laser game, sauf qu'au lieu de bouger physiquement et d'avoir des mains, les gens sont obligés de créer un décor. L'avantage de cette, c'est qu'en fait, tu es dans une pièce complètement noire. Les murs seraient en briques, c'est pas gênant, mais c'est simplement les ordinateurs permettent de. Tu peux être dans un western ou dans l'espace, etc. Mm-hmm. Là, tu peux changer l'univers comme tu veux.
Oui, puis là, ils peuvent te changer le jeu. Là, nous, on avait testé le jeu où les zombies venaient sur nous. Mm-hmm. On était en mode dernier carré, il faut la tout survivre. Il y avait pratiquement 200-300 zombies qui arrivaient. Mais tu avais aussi le mode Battle Royale avec deux équipes. Parce que tu peux aller jusqu'à 8 joueurs, voire 15 joueurs en fonction du jeu. Et vous êtes chacun à bout de salle. Et après, c'est le premier qui se rencontre et vous vous direz dessus. Et puis au bout de 3 vies, hop, ton pistolet est désactivé. La première équipe qui a perdu, voilà quoi. Mais ça, c'est le jeu vidéo, on va dire, multijoueur. Mm-hmm. Par contre, il y a un autre là qui se trouve à tourner. Alors que là, je vais vous le retrouver. Le
manoir des damnés.
Voilà. Qui est effectivement.
Ascari.
Alors, c'est Terra Game Center. Ils sont à plusieurs endroits, mais là, j'ai été à tourner pour le tester. Le manoir des damnés, c'est. On a un groupe de 4 à 8 personnes. Où, pareil, on a le PC sur le dos, le pistolet à la main, les lunettes VR sur la tête. Et on vous mène dans une petite pièce.
Est-ce qu'on te demande un certificat médical ou si tu as des... Non. J'imagine qu'il y a certaines personnes qui
peuvent... Par contre, on te dit clairement, vous allez arriver à des endroits où le jeu vous dit stop, c'est stop. Parce que ça veut dire que juste derrière, à un mètre, il y a un mur. Et on vous demande de ne pas courir. Marchez vite si vous voulez, parce qu'il y a un moment donné, tu vas marcher vite, ça y est, pas de problème. Mais de ne pas courir, de vous espacer, de pas trop. S'il y a un élément de décor, c'est un vrai élément de décor. Donc vous dites pas c'est de la réalité virtuelle, je peux le traverser. Je pense que ton genou va pas être d'accord. Mais bon. Et là, ce qui est un petit plus par rapport au Planet Center de l'homme, c'est que on a les sensations physiques. Comme là, pareil, c'est le manoir des damnés. On rentre dans un manoir pour aller sauver des enfants du mal qui s'y trouve.
Pas de spoil.
Voilà, non, mais c'est juste ça. C'est simple, c'est que tu peux perdre soit parce que tous les joueurs sont morts en même temps, soit parce que les enfants sont morts.
C'est gay.
Voilà. Donc, généralement, on essaye de mourir à tour de rôle pour revivre et protéger les enfants. Ouais. Mais là, le petit truc qu'il y a en plus, c'est que quand tu vois les zombies arriver sur toi avec le VR, tu as une petite commode devant toi, parce que tu es dans un manoir, donc c'est forcément meublé. Tu vas vers la commode et tu t'appuies contre la commode.
Tu te caches.
Tu sens physiquement quelque chose sur toi. Enfin, tu sens que tu t'es mis contre quelque chose.
C'est-à-dire que le décor est réel.
Après, le décor, ça peut être juste, ils ont mis un bloc de béton. Toi, dans le casque VR, tu vois que c'est une commode. Parce qu'à un moment donné, ce n'est pas des simples zombies à la Romero, c'est des zombies avec mitrailleuse. Enfin bon, je vous passe les. Enfin, pas de spoil, quoi. Donc tu dois aller te planquer pour éviter les trucs. Mais donc forcément, tu vas te couvrir pour éviter les tirs. Et c'est vraiment une sensation physique de je me suis planqué. Enfin. T'as pas de mots pour ça, il faut vraiment le vivre.
C'est vraiment manquant actuellement dans la VR, puisque tu peux pas encore dire dans mon salon j'ai tel équipement. Ouais. Voilà.
Et surtout que là, tu avais le côté sensation physique du jeu vidéo, dans le sens où il t'amène comme ça, manoir, tu as plusieurs pièces. Donc pour aller d'une pièce à l'autre, il faut faire quoi ?
Ouvrir une porte.
Bah oui, bah va l'ouvrir quand tu connais pas toi la VR. Tu tends ta main, tu sens une poignée, tu l'ouvres.
Tu la sens vraiment.
Tu sens vraiment, et c'est des vraies portes.
C'est le gros avantage par rapport à ce qu'on a pu tester, où tu tu saisis un objet, mais tu ne le sens pas physiquement dans ta main. Tu as la petite manette, le petit joystick que tu as dans la main, mais je ne pense pas qu'il y ait de retour. Ça viendra peut-être. Non, non. Ça va venir, ça va évoluer. Quoi. On aura des casques, des casques qui vont nous renvoyer de la chaleur éventuellement. Ouais. On aura aussi peut-être à un moment les odeurs qui viendront. Enfin, ça va venir avec l'évolution des techniques.
À un moment donné, tu te retrouves aux fenêtres du manoir. Bah, tu sens le petit rebord pour mettre ton coude et commencer à viser. Ouais. Et là, pour faire plus, ils ont sorti une nouvelle application qui est la route des damnés. Donc là, je m'empresse de prendre des places pour, pour réserver ma partie. Là, on n'est pas dans le manoir, on va jusqu'au manoir, de ce que j'ai compris, mais j'ai un peu lu en diagonale. Mais par contre, ils vont simuler l'action d'être dans un véhicule. Donc toujours dans la réalité virtuelle, les secousses, par exemple si jamais tu roules sur un zombie, bah t'as une petite secousse.
En fait tout le monde sera dans une petite voiture comme t'as à la sortie des supermarchés, et toi t'auras l'impression de faire un trek de 2 heures en...
Ah ouais, mais c'est le but. Hein. Mais après vous pouvez retrouver ça sur leur site, il y a des petites vidéos généralement pour le manoir des damnés où on voit comment ils jouent. Donc par exemple tu vois un bloc de béton avec une personne qui s'y appuie dessus, ça casse un peu le mythe. Mais c'est pour juste expliquer que ben, tout se passe dans ta tête, même si ton corps ressent ça.
Quand tu vois des gens qui sont en train de pratiquer ça, quel que soit l'endroit, tu te moques d'eux. Tu sais que quand ça, tu vas tester, bah, tu auras les mêmes réflexes, etc. Mais on a parlé de prix tout à l'heure. C'est vrai que pour l'instant, c'est encore des activités qui sont relativement chères. Je ne connais pas le tarif du manoir des damnés, etc.
Il y a 6 mois, c'était une quarantaine d'euros. Par contre, c'est 40 euros. On avait une heure de temps. On avait 30 minutes.
Par personne.
On avait 30 minutes
de préparation. C'était
30 minutes de jeu sur les casques VR où on pouvait faire un peu de Spider-Man, de ce qu'on voulait. Et après, on avait 30 minutes de jeu dans le manoir où là, ils nous mettaient 5 minutes de préparation, nous expliquaient quoi faire, etc. Et ils nous lâchaient après dans le jeu.
Ça reste sympathique, mais voilà, c'est un certain budget, mais généralement, on fait de manière assez one-shot.
C'est ça peut être aussi pour le team building, pour les entreprises, c'est typiquement... Typiquement, le genre de truc où là tu te cotises pour offrir ça.
Je peux faire un escape game à 3 personnes, voire à 4 personnes, ça revient très cher presque aussi. Pareil.
Et quand je disais que ça pullulait, c'est pas pour rien, c'est qu'Ali, il y a 2-3 déjà boutiques qui proposent ce genre de service. Et en venant tout à l'heure, je passais pas loin de la gare de Lille pour aller prendre le métro, et je passe devant une boutique ouverte, une espèce de tiens, une nouvelle salle de sport. Maintenant, il y a des gens qui étaient là avec des casques sur la tête, et il y avait des écrans qui montraient au public ce qu'ils voyaient. Ils étaient 2-3 dans un jeu vidéo à s'affronter. Une espèce de Fortnite, enfin, je ne sais pas ce que c'était comme jeu, et là, le truc était assez grand, je lui dis, ah, voilà, c'est encore un nouveau truc, et là les tarifs, c'est un truc qui s'appelle Mind Out, c'est juste à côté de la gare à Lille, et effectivement les tarifs, même en groupe, à plusieurs, ça revient à au moins 25 euros la personne, si je ne dis pas de bêtises, pour une demi-heure. Donc, ça peut chiffrer.
De mémoire, je pense qu'on avait vu aussi, quand on avait été au Festival de Cannes, on avait aussi un petit stand de VR où c'était des combats de magiciens qui s'envoyaient des boules de feu ou des comme ça. Mais nous, on voyait ce qui se passait parce qu'on avait l'écran pour voir le jeu, comme disait Dom là, avec les personnes sur le niveau de la gare. Mais tu les voyais, tout le monde se croyait Harry Potter quoi, dans le jeu. Ça s'envoyait des sorts, ça s'esquivait.
Et après, ils ont fait une partie de Quidditch, c'est ça? Peut-être. J'ai un peu de musique, c'est vrai, puisqu'on a un bel album qui est hommage à une célébrité française qui nous a marqué en tant qu'acteur, en tant qu'humoriste, etc. Je vous propose...
Et en tant que chanteur, bien sûr.
C'est Tom Novembre.
Alors c'est pas un hommage à Tom Novembre.
Voilà, effectivement.
Moi j'avais cru, oui, c'était un dommage. Je n'avais pas compris hommage.
C'est Tom Novembre, on n'a pas entendu parler de lui depuis un moment, qui est chanteur et comédien, qui a sorti ses propres albums et qui fait un hommage à Bourvil, André Bourvil. Et l'album s'appelle André, c'est ça? André 2019.
Alors, j'en ai plusieurs. J'ai La Rumba du Pinceau.
Tout n'est pas tellement beau. Derrière mon petit pinceau. Pas possible. Non, faut le voir de l'autre côté. Pas la façade. Du pinceau.
Je crois que le CD est rayé.
Sauve l'AVC 20 ans, madame fait son ravalement. Quel tout car pour faire.
Il y a un double message dans cette chanson là, le coup du pinceau, non?
Je sais pas, mais on va retester une. Si le CD est rayé, au pire on en reprendra un autre, hein, c'est pas grave. Hein.
Dans un petit bal qu'avait ses gravats, il dansait.
Ouais, bon. Dans ce petit bal. C'est soit la machine de. le lecteur CD de Radio Campus qui nous lâche entre les doigts. On va continuer sur la VR et on choisira un autre album. Mmh. Ou j'ai d'autres albums, hein, je les sors comme ça en direct. Alors, j'ai le nouvel album de Garou.
Non.
J'ai le nouvel album de IAM. Leonard Cohen. Merci pour la danse.
En français ?
Non. Ah bon, Thanks for the dance. Oh. L'album de Renaud, et oui, que vous avez tous entendu sur les ondes.
On l'a entendu partout, lui.
Et j'ai lu Stéphane Echer, revisité par une fanfare. Est-ce qu'on n'a pas déjà écouté ça, Stéphane Echer ?
Je crois qu'il a récidivé. Ça a eu tellement de succès que...
J'ai Cendrillon après minuit.
Tout ça.
Elle marche mieux, la platine, à tout d'un coup.
En fait, t'avais encore acheté un CD au rabais, quoi.
Il vient de sortir que je l'ai déjà eu d'occasion.
Avec l'orchestre qui s'appelle le Tract Orchestra.
Et l'album s'appelle...
Je sors de ta maison, le soleil m'éblouit, à tort ou à raison. Je pense que tout est dit, pas d'ombre à tes rideaux, pas un voile qui frémit. Ça fut bref et idiot, ça fut bref, ma jolie. Je vais rayer ton nom, mon téléphone aussi, mes félicitations.
On dirait que en France, dès que tu as un succès sur un ou deux albums, bah, t'as le droit d'en refaire autant que tu veux, quoi. Les...
Le succès appelle le succès. Tant qu'il y a du fric à se faire, c'est tout, quoi.
Ça doit pas coûter cher de faire un album. Il y a un petit côté Francky Vincent. Oh, le pas d'amis comme toi.
Classique.
Ambiance boîte de nuit. Il y a même une chorale, tiens.
Quand tu traverses la pièce, en silence que tu passes devant moi, je regarde tes champs.
C'est encore de la musique qui va plaire à l'écho des gnous juste après nous, ça.
Quand tu t'approches de moi, ton parfum me fait baisser les yeux. Et si tu touches mes mains, je m'arrange pour ne pas y penser. Je n'ai pas d'amis comme toi, pas d'autres amis comme toi. Je n'ai pas d'amis comme toi, pas d'autres amis comme toi. Comme toi.
C'est spécial comme version quand même.
C'est un petit peu électro, mais... Avec des vrais instruments, c'est très bizarre.
T'as l'impression qu'il a voulu sortir cet album il y a au moins 20 ans. Au niveau de la musique, ça me fait penser à une musique d'il y a 20 ans. Pas de maintenant, en tout cas.
C'est qu'il a pas évolué. En même temps, vaut mieux si tu veux retrouver tes fans.
Ouais. Pas convaincu.
Alors, pour continuer un peu de parler de réalité virtuelle, il y a eu très récemment à Paris le salon Virtuality 2019.
Et il y a deux semaines, ouais, c'est ça, tout le week-end.
Voilà, qui proposait plus de 110 exposants qui proposaient des solutions de réalité virtuelle, avec notamment des sortes de sièges où vous êtes allongé sur le ventre et vous êtes plus ou moins en équilibre sur plusieurs pads. Et vous êtes en train de faire de l'exploration sous-marine, par exemple.
Ah ouais, je pensais que ça serait plutôt en train de voler, genre faire du deltaplane.
Bah tu peux, ouais, après, faire du...
Je pense que ce serait pas mal, parce que pour l'exploration sous-marine, quand tu le testes avec le casque VR, et que t'es debout, et que, et que ta tête te dit que t'es en train de nager dans les profondeurs, le motion sickness est très très fort.
Un masque complet, tu sais, avec les bouteilles d'oxygène, etc., pour simuler vraiment que t'es sous l'eau.
Avec le bruit à la Dark Vador.
Ouais, exactement.
Mais ça permet aussi de voir que des studios assez jeunes se lancent dans cette
nouvelle technologie. Il y a plein de sociétés, comme ça a du succès, il y a plein de sociétés, au hasard, comme on l'a dit, plein de Facebook. Donc dès que tu te dis, oh, on a un petit studio, on fait de la réalité virtuelle, tu essayes de choper quelques prix au passage, quelques subventions, on va dire.
C'est bien d'avoir toujours.
C'est un peu perturbant.
Je suis navré.
Mais voilà, aussi découvrir, effectivement, la réalité virtuelle. Bon, on a parlé des applications ludiques et culturelles, par exemple pour visiter un musée, mais aussi plein d'applications. Ben, on l'a vu aussi concrètement dans le domaine de la médecine, où un médecin peut opérer à distance, à l'autre bout de la planète, si un spécialiste de la chirurgie du cœur sur les enfants, par exemple, il peut très bien opérer et commander à distance, alors soit au travers des yeux d'un autre médecin qui opère sur place, qui s'y connaît moins, et le guider plus précisément, soit guider une main à robot qui opère à ta place. Ça, ça existe déjà.
Et il y a d'autres points qui peuvent être intéressants médicalement. C'est aussi pour certains sujets qui ressentent de la douleur ou de l'angoisse. Le fait d'avoir une immersion de réalité virtuelle permet justement de réduire un peu la douleur. Hein.
Moi, je pense par exemple aux gens qui ont peur en avion. Il faut soigner le mal par le mal. Il existe, à Lille, il y en a une société d'ailleurs, pas loin de Rio, qui fait de la simulation. Et tu payes en quelques séances, tu viens soigner ton mal, ta peur de l'avion, grâce à des simulateurs. Puisque tu peux voir qu'il y a moins de risques, etc. Enfin, ça dépend d'où vient l'angoisse, etc. Et donc j'imagine, est-ce que tu peux soigner ton vertige avec une espèce d'application où tu te promènerais au bout?
Testé le roller coaster juste avant.
Non, ça c'est parce que j'ai une petite gueule de bois d'hier. Mais pour l'avoir testé au niveau.
Alors si vous avez un ami qui a le vertige et que vous avez un jeu qui consiste à se promener sur un fil entre deux immeubles, etc., je vous déconseille de lui faire essayer parce qu'il va tomber dans les pommes.
Pour l'anecdote, c'est simple. Le jeu me proposait, en fait, tu jouais Spider-Man et tu te proposais d'aller sur une grue qui est 200-300 mètres de haut et t'apprends les bases sur un toit d'immeuble, donc il n'y a pas de souci. Et à un moment donné, il te dit, mince, un grand méchant arrive, envoie ton filet d'araignée en haut de la grue, comme ça tu te projettes en haut et comme ça tu auras un panorama de la ville et repérer le méchant. J'ai lancé mon filet, mes jambes, elles ont tellement tremblé que j'ai fait, stop, je m'arrête là. Non, le vertige, c'est... Au moins, tu veux savoir si tu l'as, en tout cas.
À force de t'habituer, c'est toujours mieux que d'aller promener en haut d'un vrai immeuble. Là, tu te promènes dans un immeuble de jeu. Donc, tu risques pas de tomber, tu risques pas de te faire mal. Donc, peut-être qu'à force de faire des séances, tu pourras peut-être soigner ton vertige, on sait jamais.
Ouais, qui sait.
Alors, tout à l'heure, tu parlais, ça serait bien si le Kinect se mettait un peu... Ça existe déjà, en fait. Oui. Ça, c'est c'est Microsoft. tu peux avoir un modèle de prototype pour 3 500 $.
Voilà.
Mais voilà,
je te trouve, l'année prochaine, ça sera à 350 $.
Et là, on n'est plus sur des casques VR, on est sur des casques XR.
Wow.
Donc un peu une sorte de réalité, un peu entre le VR et la réalité augmentée. Donc à voir comment...
Extreme reality, c'est-à-dire que c'est encore plus réel que la réalité.
Et apparemment, on a beaucoup de prototypes qui ont été testés au niveau militaire. Et qui vont être appliqués pour nous.
Évidemment, tu peux déjà faire ça. Quand les drones, on sait que les drones sont téléguidés à distance et tu peux très bien imaginer que les caméras et que le pilote voit concrètement, ou bientôt on pourra aussi diriger des robots ou conduire un tank qui sera complètement vide, un char d'assaut qui sera complètement vide mais guidé à distance par des opérateurs qui seront dans des casques,
et ça,
presque comme dans un jeu vidéo. Quoi.
Ça court-circuitera la loi qui interdit à des intelligences artificielles d'utiliser des armes.
Ah non, pas l'intelligence artificielle, on en parle trop parlé dans cette émission.
Voilà. Mais si tu dis, ce qui était déjà fait par les Américains sur les combattants en Irak, tu dis, j'ai une personne humaine qui est acte de décision sur oui ou non faire feu. Ouais. Là, que ce soit un robot, une soucoupe volante, tout ce que tu veux, ça passe. Quoi.
Ouais, pas bête. Ouais, la législation va beaucoup bouger en faveur des... D'ailleurs, il y a un mouvement qui est en train de se monter dans le monde... Il y a les droits de l'homme, il y a les droits des enfants, il y a les droits des animaux, et bientôt il y aura peut-être les droits, si ça va être fait, les droits des intelligences artificielles, parce que on a déjà des petits animaux qui nous accompagnent, etc., qui sont bougés animés par l'intelligence artificielle. Je ne parle même pas des assistés vocaux, mais il y a aussi, on parlait de médecine tout à l'heure, la recherche médicale fait des tests sur des intelligences artificielles pour voir comment elles réagissent à certains comportements, et ben, y a des gens qui sont contre ça. Il y a des gens qui sont contre l'expérimentation des médicaments, etc. sur les animaux. Bon, ça se comprend tout à fait. Mais bientôt, on ne pourra pas faire d'expérience même sur l'intelligence artificielle. On imaginerait qu'elles ont une espèce de... Ben, pas d'âme, enfin, je ne sais pas. Est-ce que l'intelligence artificielle a un sentiment quand tu as souffert?
Est-ce que tu as de l'empathie pour...
Pour quelque chose qui n'existe pas, c'est vraiment, c'est compliqué. Ouais. Je me rappelle sur certains jeux vidéo, quand tu as dû diriger des petites créatures qui étaient animées par des artificiels, ou quand tu invoquais une créature, etc., et qu'elle disparaissait au bout d'un moment, et tu dis, est-ce que tu as un petit pincement au cœur, ouais. Est-ce que ça se trouve, pendant le temps où je jouais cette créature, où je l'avais animée, peut-être qu'elle avait vraiment une vie, on ne sait pas, bientôt ça vient.
Il y a des gens qui croient que tu fais vraiment du mal à des gens dans les jeux vidéo. Hein. Oui.
Même si... ça viendra peut-être. Par contre, tu peux te faire mal avec les jeux vidéo, avec si t'as mal réglé ton casque de VR ou si tu tombes ou je ne sais quoi, ou si t'as trop bu.
Effectivement. Alors, on a parlé de l'utilité de la VR dans le domaine même médical, c'est génial. Mais on peut aussi avoir de meilleures performances. Et ça s'est testé en Russie, puisque des casques de réalité virtuelle ont été testés sur des vaches. Alors, à savoir si c'est... Demain, on va contredire l'information en disant que c'est un gros fake, mais ça permet d'augmenter...
Même si ce n'est pas le cas, j'imagine tout à fait la chose, parce que tu pourrais utiliser, effectivement... Il y a des casques de relaxation qui t'envoient des lumières, etc., pour dormir, etc. Mais oui, tu peux très bien imaginer des applications médicales créées par des psychologues ou des psychiatres pour... tu mets le casque si tu es trop stressé, et pour mettre un casque et t'envoyer soit des images ou te mettre dans un univers plus calme, etc., moins stressant.
Une alternative à l'hypnose, en fait.
Exactement. C'est vrai que c'est une espèce d'hypnose augmentée, réalité, c'est bizarre. Et effectivement, pourquoi pas ne faire tester... Mais je serais curieux de voir ce qu'ils envoient comme image à ces vaches, dans quel univers.
Des trains qui passent.
Il y a les poulets en batterie, les vaches qui sortent, qui voient jamais... des animaux d'élevage qui ne voient jamais la lueur du jour, etc. Tu peux très bien imaginer de leur mettre des casques pour leur faire croire qu'ils sont à l'extérieur. Ouais,
bah après, je ne sais pas si quelqu'un qui aime assez les animaux pour les laisser dans des caves et compagnie va dépenser de l'argent pour les faire sentir bien et d'avoir une meilleure production. Je ne pense pas que sa meilleure production...
Je serais curieux de voir ce qu'ils envoient une image à ces pauvres vaches pour les faire produire plus de lait.
Des trains qui passent, tout simplement.
C'est-à-dire qu'ils ont fait des expérimentations. Est-ce qu'ils ont testé eux-mêmes? Et si tu mets toi-même le casque? Ouais, je suis bizarre. Oui, non.
Non,
pas d'idée.
Pas à l'antenne, en tout cas.
Mais déjà, si elle lui met une grande prairie, elle se sentira déjà mieux par...
En fait, oui, le principe, c'est ça. On connaît les agriculteurs qui passent de la musique classique à du Tom Novembre, pourquoi pas, à leur vache, pour qu'elle soit moins stressée. Je ne sais pas ce que je passerais comme musique.
Alors, si le CD est rayé comme le nôtre, ça risque pas d'être très agréable.
Il va y avoir des...
Et pour faire un petit bond, puisque tout à l'heure on parlait, on peut visiter des galeries.
Mais bientôt, on n'aura même plus besoin de visiter, d'aller à l'étranger pour voir des paysages.
Il y a une galerie 3D qui vient de se créer, qui s'appelle Occupy.
Alors c'est pas une application, c'est un jeu qui est disponible sur Steam. Alors moi je l'ai testé sur PC, c'est gratuit. Donc ça se prononce Owayway, je crois que c'est ça. Enfin le site internet c'est www.io, donc c'est On Occupy White Walls. Donc ça consiste à, alors c'est une espèce de Second Life pour ceux qui se rappellent de ce jeu.
J'allais dire ça, avec un mélange de SimCity.
Tu te connectes, on te donne une pièce, tu crées même pas un avatar parce que je crois qu'on voit pas son personnage, peu importe, tu prends ton nom. Et le principe c'est de créer une galerie d'art virtuelle. Alors c'est encore en version alpha, donc pour l'instant il manque plein de fonctionnalités. J'imagine que plus tard on pourra aussi s'y connecter avec un casque de VR, ça serait pas mal. Et donc on te donne une pièce, tu la décores comme tu veux, tu peux rajouter des meubles, des murs, etc. Et tu as tout un catalogue, il y a pratiquement 2000 œuvres d'art, des tableaux, du 18e, 19e, ça va même peut-être jusqu'aux peintures rupestres, et des artistes très récents, des artistes connus ou pas connus. Et tu sélectionnes dans tout le catalogue, tiens, cette œuvre-là me plaît, hop, tu l'achètes pour une espèce de monnaie virtuelle, quoi. On te donne des crédits au départ, et tu la mets sur un de tes murs, tu crées ta galerie dans ton appartement, ta maison, tu crées ta galerie, tu fais ta sélection. Et après, l'intelligence artificielle qui dirige un peu le jeu va te proposer aussi des œuvres en fonction des œuvres que tu choisis. Et les autres j'allais dire joueurs, utilisateurs, visiteurs, peuvent venir dans ta galerie, mettre des annotations, même discuter avec toi, etc. Alors, il n'y a pas de but pour l'instant, c'est vraiment une espèce d'expérience, c'est encore en version alpha.
Donc mais... le but n'est pas de vendre de vraies œuvres qui existent.
Alors pour l'instant, si tu es artiste, tu ne peux pas encore proposer tes propres œuvres, mais c'est prévu.
Tu peux discuter avec des gens dans le jeu pour dire, écoutez, si vous voulez l'acheter, on peut trouver un tierce moyen de le faire.
J'imagine qu'à terme, ça pourrait être un moyen d'acheter, ça pourrait une espèce de gérer un marché de l'art. Et en tant qu'artiste, si tu connais des gens qui font des tableaux, etc., je ne vise personne, tu pourras très bien, au lieu de mettre simplement sur Instagram ou sur une page Facebook ou un site internet, te créer ta galerie à toi, là, ça sera un petit peu virtuel. Alors,
ça remplacera ton book, en fait.
C'est un petit peu plus ludique, etc., et t'es un peu plus immersif. En plus, t'es plus concentré, enfin, quand t'es pas perturbé par autre chose. Alors, ça sera encore plus réel avec un casque de réalité virtuelle. Là, tu seras vraiment comme si t'étais dans la galerie.
Je pense que si c'est la suite logique d'avoir ça en VR. Mais entre l'Instagram et cette galerie virtuelle en 3D, il y a quand même des sites tels qu'Art Majeur qui permettent de créer ces petites galeries. Mais là, vous n'avez pas des murs, des fenêtres qui vous donnent la sensation avec une petite fontaine et une sorte d'ambiance.
Oui, puis
là,
tu découvres des œuvres. Enfin, tu peux avoir des mélanges complets. Moi, j'ai pris des œuvres un petit peu au hasard, quoi. Ou j'ai pris des choses qui... J'ai pris, par exemple, que des choses qui étaient en noir et blanc et qui représentaient des immeubles, comme ça. J'ai pris un petit peu au hasard. Pendant tout le catalogue, il y en avait plein. Et donc, ça donne une espèce de mélange. Et puis, c'est surtout la façon dont tu dois concevoir et penser ta décoration. Et ben, ça donne un... Parce que souvent, sur une galerie, tu vas sur un site, tu ajoutes les tableaux, c'est tout. Il n'y a rien autour. Il y a juste un profond écran quand tu as de la chance. Mais quand tu vas visiter une vraie galerie d'œuvres d'art à Lille, on en a plein, faut pas hésiter à y aller. Et tu vois qu'à la station, ils doivent penser à tout, à la façon dont les œuvres sont agencées entre elles, à l'éclairage, à même la musique que tu passes, etc.
Et même si c'est pas forcément vu, tu dois aussi penser à leur conservation,
exactement,
que ça soit ça. Physique ou même
le professionnel,
leur matériel. Ouais, un peu.
Alors, voilà, c'est sûr, t'as pas de problème d'hygrométrie ou quoi que ce soit dans l'application, tout est virtuel.
Ouais, non, c'est. Ouais, et en plus, tu peux vraiment profiter de discuter avec les gens. Et enfin, je sais pas, t'as vraiment le moyen de te poser et de. Tu discutes, tu vois pas la personne en face, donc t'as pas les a priori de la personne. La personne est là parce qu'elle veut visiter ta galerie, t'en parles avec elle, et enfin, le dialogue se fait tout seul, c'est excellent.
Oh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, ouais. Ce qu'ils ont comme projet pour. Est-ce que ça va donner un jeu? Est-ce que ça va donner, vraiment déboucher sur des œuvres d'art échangées et vendues en vrai?
Ouais. Mais est-ce que la galerie du joueur sera considérée comme œuvre d'art?
Oh là, les questions qui se posent.
Un jour. Alors, ce week-end a eu lieu un événement et Dom, tu as...
Bah oui, on les avait reçus... On l'avait reçu il y a 15 jours, donc les Arpenteurs de rêve. Et c'était hier toute la journée, beau succès. C'était vraiment sympa. Il y avait des tournois, puis il y avait des concours de tables. Parce que tous les visiteurs qui venaient pouvaient voter pour la table de jeu qu'ils trouvaient, qui était la plus belle. Donc il y avait vraiment plein de jeux. Et celle qui a emporté, d'ailleurs, c'était une table. Enfin, c'était la plus grande, c'était un petit peu facile. Ils étaient une dizaine, ils avaient fait une table immense de Warhammer 40 000 avec. Il y avait des créatures, des véhicules qui, je sais pas, qui étaient grands comme un écran de télé pratiquement. Enfin, c'était assez énorme, avec une bataille épique. C'est eux qui ont remporté le. Il y a des gens qui venaient de très loin. Et vraiment, de tout, ça allait. Tu avais sur deux tables côte à côte, tu pouvais avoir des batailles. De l'Antiquité, et juste à côté, des vaisseaux spatiaux qui s'affrontaient, et il y avait un tournoi de Star Wars, etc. Plein d'enfants qui sont venus, c'était très sympa. Donc, un beau succès. Alors, c'était spécial pour les 30 ans, est-ce qu'ils referont tous les ans maintenant, espérons.
Pour la 31e, pourquoi pas. Après, ça demande dans beaucoup d'investissement.
Pour les 60 ans.
On pense à eux, puisque ce genre de week-end est toujours assez chargé, stressant, épuisant. Et on le sait très bien, puisqu'à chaque fois que les gens viennent faire un peu de promotion ici, on les voit déjà bien, bien surchargés. Et une sorte de souffle qui... Ah, une fois que c'est fini, on est content de l'avoir fait, mais on est content que ça s'arrête aussi. C'est souvent ça, les grands salons. Et est-ce qu'il y a des jeux que vous avez testés récemment ou...
Moi, j'ai profité du salon justement pour tester un jeu qui s'appelle The Banishing, qui est sorti chez WizKids, un petit jeu... C'est vraiment une catégorie de jeux que j'aime bien. C'est une petite boîte, pas très grande. C'est bon, ça tient pas dans une poche, mais dans un sac largement. Et il coûte 18 euros à peu près. Et dedans, il y a que des cartes et des plaques avec tes personnages. Et le principe, c'est que tu as des cartes. Sur les cartes, tu as soit des monstres, ils sont en noir, des squelettes, etc. Soit des symboles de trois couleurs et de trois formes, si je ne dis pas de bêtises. Et chaque joueur a un personnage qui a des pouvoirs différents. Et le but, c'est de bannir 10 cartes. Donc, parmi toutes les cartes qui sont sur la table, de réussir à en bannir. Et chaque personnage a ses propres pouvoirs. Et alors, on a fait une partie pour tester comme ça. Et on en a refait une tout de suite. Une revanche, on s'est retenu pour pas en faire d'autres, parce que c'est très, t'as envie de tester les combinaisons entre personnages, parce que t'as des personnages très faibles, comme les, moi j'avais pris l'ensorceleuse par exemple, qui n'a que 6 points de vie, mais qui est capable, j'ai réussi à bannir à un moment 5 cartes d'un coup, mais par contre le reste de la partie, j'avais toujours des monstres avec moi, donc je pouvais plus rien faire. Enfin, c'est vraiment, et t'as envie de tester les autres personnages, et le fait, comme on joue à tour de rôle, on était 4 ou 5 autour de la table, la position de chaque personnage par rapport à chaque joueur, c'est important, parce qu'il y a des combos de perso, de pouvoir qui marchent les uns avec les autres. C'est très simple, c'est vraiment pas cher. J'étais très surpris par ce jeu, je comprenais pas déjà, on avait entendu parler, je sais pas pourquoi il y avait tant de gens qui en parlaient. Je comprends, moi, c'est vraiment tout bête, c'est que des cartes, etc. Mais c'est très addictif. The Banishing, chez WizKids.
Et c'est fait par c'est une boîte française, c'est ça?
Non, c'est un auteur américain, c'est son premier jeu en plus.
D'accord.
Le jeu est disponible en français, bien sûr.
Alors, je vous rappelle, vous êtes dans l'émission Heureusement en France sur Radio Campus. Il est 18h55. N'hésitez pas à aller sur notre site anotherpodcast.fr ou sur le Facebook, Instagram, Twitter, Heureusement en France.
Et à propos de Radio Campus, on va rappeler que c'est les 50 ans, si vous écoutez la radio toute la journée, vous le savez, parce qu'il y a les petits rappels d'anniversaire. Et là, parmi tous les événements qui, cette année, fêtent le 50e anniversaire de Radio Campus, samedi prochain, de 20h à 23h, donc il n'y aura pas d'émission, mais ça sera remplacé par un concert, des concerts live, puisque Radio Campus sera en direct de l'Agora à Santes toute la soirée, avec des groupes du nord de la France pour fêter à la fois les 50 ans de Radio Campus, mais c'est aussi les 10 ans de l'émission de Déferlante Nord, voilà, qui passe tous les... C'est le vendredi, si je bats de bêtises, sur Radio Campus. C'est ses 10 ans. Depuis 10 ans, elle invite des groupes plus ou moins connus du nord de la France. Et donc, c'est l'occasion, pour ses 10 ans et pour les 50 ans de Radio Campus, de retrouver donc des concerts acoustiques live toute la soirée. Et l'émission sera en direct. Il y aura des extraits d'interviews de l'émission, etc. Et par contre, c'est gratuit, mais par contre, les places sont limitées. Donc, il faut s'inscrire. En appelant. Alors, je vais essayer de retrouver les coordonnées que j'ai notées.
Alors, je vais annoncer, pendant que tu retrouves les coordonnées, le morceau de fin, puisqu'il y en a qui arrivent à faire comme ça des concerts, et il y en a d'autres qui, malheureusement, doivent les annuler.
Ah oui, on parle de chansons françaises, oui. Alors, j'ai retrouvé les coordonnées. Donc, c'est soit auprès de Radio Campus, donc campus@campuslille.com, ou le 03 20 91 28 75, ou alors espaceagora-sante@gmail.com pour s'inscrire.
Voilà, on va se quitter tout de suite avec une chanson d'Henri Dess et The Grand Gamin. Donc Henri Dess Metal. Dess,
voilà, qui avait plein de concerts prévus encore, dont un aujourd'hui, et qui malheureusement a une attaque cardiaque. Donc malheureusement, il est hospitalisé. Et donc tous ses concerts sont annulés. Mais depuis quelques moments, un moment, son fils, qui s'appelle Pierrick, était fan de musique aussi, joue dans un groupe de death metal et s'amuse à non seulement à reprendre les chansons de son papa, mais à inviter son père sur scène pour qu'il vienne jouer ses chansons, ses classiques de chansons pour enfants, version un petit peu plus nerveuse, on va dire.
C'est ça. Et on se retrouve la semaine prochaine.
À
ciao.
À la prochaine.
C'est une machine qui sort de l'usine. Elle a des tuyaux partout, elle pète partout les mots. C'est une machine qui sort de l'usine. Barbichette qui fait balayette, et puis deux trois tentacules quand elle recule. Sans aucun trucage, elle fait un nuage de poussière et de fumée qui fait tousser. C'est une machine qui sort de l'usine. Elle a des tuyaux partout, elle pète partout les goûts. C'est une machine qui sort de l'usine. On peut tout faire avec, tout faire avec. Elle démarre, c'est joli à voir. Elle fait des tout petits sauts très rigolos. Et quand elle s'arrête, en baissant la tête, ça fait toujours glou 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 par en dessous. C'est une machine qui sort de l'usine. Elle a des tuyaux partout, elle pète partout les deux. C'est une machine qui sort de l'usine. On peut tout faire avec, tout faire avec.
c'est du vieux pain qui coûte rien. Un peu de moutarde dans de la limonade. Et pour la fin du repas, glace au petit pois. C'est une machine qui sort de l'huile.